liturgie de la parole de ce jeudi 5 juin 2025, jeudi de la septième semaine de Pâques. Fidèle à la loi des dieux, Saint Boniface a combattu jusqu'à la mort. Il n'a pas craint les paroles des impies. Il était solidement établi sur la roc. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Saint Boniface, évêque et martyr. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que ton Saint Martyr Boniface intercède pour nous, Seigneur. Donne-nous de garder fermement et de professer sans crainte, par toute notre vie, la foi qu'il a enseignée par sa parole et qu'il a scellée de son propre sang. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Première lecture. Il faut que tu me rendes aussi témoignage à Rome. Lecture du livre des Actes des Apôtres, du chapitre 22, verset 30, au chapitre 23, verset 6 à 11. En ce jour-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever les liens, puis il convoqua les grands prêtres et tous les conseils suprêmes, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que les conseils suprêmes se répartissaient entre Sadducéens et Pharisiens, Paul s'écria devant eux: « Frères, moi je suis pharisien, fils des pharisiens. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela, il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'ange ni d'esprit, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens s'élevèrent et protestèrent vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé, ou un ange ?» L'affrontement devient très violent et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit: « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu les rendes aussi à Rome. » Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au 17e chapitre du 20e au 26e verset. En ces temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, et aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu. Mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je les fais reconnaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chers internautes, Saint Boniface du 8e siècle, évêque et martyr, a travaillé beaucoup à la réchristianisation de l'Allemagne. Il avait une méthode assez simple dans sa façon d'évangéliser. Il rencontrait les rois pour avoir leur aval, pour s'attirer leur sympathie. Et puis après, il évangélisait le peuple. En d'autres termes, il évangélisait le peuple tout en essayant de s'attirer la sympathie des rois, juste pour qu'on puisse les laisser travailler. Il va mourir. Les païens vont les tuer. La lumière de l'évangile n'a pas été acceptée par les ténèbres de la vie. Les païens vont les tuer au 8e siècle. Il a connu donc les martyrs comme Paul, dont nous parle la première lecture, acte 22, 30e verset, puis 23e chapitre de 6 à 11. Paul est arrêté à Jérusalem. Il ira jusqu'à Rome. Il va connaître le martyr. Chers auditeurs, chers internautes, la prison dans la vie de Paul, c'est quelqu'un qui a été souvent emprisonné, à maintes reprises. Là, il est en prison à Jérusalem. Plus tard, à Césarée, il sera aussi en prison. Il a été en prison à Éphèse. Et puis à Rome aussi, il sera en prison. Pourquoi doit-il être emprisonné? C'est parce que, et pour les Juifs, Paul est très dangereux. C'est leur frère. Il connaît la religion juive, il connaît l'Ancien Testament, il connaît beaucoup de choses. Alors sa conversion au christianisme est un danger pour eux. Parce que ce monsieur est très charismatique. Ce monsieur sait convaincre les gens. Voilà pourquoi il semble ne pas s'intéresser aux disciples de Paul, comme Timothée, Tite, Sylla et tant d'autres. Il s'intéresse à Paul lui-même, parce qu'il les trouve comme un danger. Vu son niveau d'études, quelqu'un qui a beaucoup étudié la loi de Moïse, et maintenant il est devenu chrétien, alors il est capable de mettre le judaïsme en difficulté. Ils vont l'arrêter d'autant qu'il est en train de prêcher une hérésie, l'hérésie du christianisme. Pour les Juifs, celui qui a été crucifié est maudit. On ne peut pas dire qu'il est fils de Dieu et Dieu. On ne peut pas non plus dire qu'il était mort, il est vivant. Non, parce que s'il est mort sur la croix, sur le bois, cela signifie qu'il est maudit. Et donc un maudit ne peut pas mourir et puis connaître la résurrection. Voilà la raison pour laquelle Paul est en train de souffrir. Paul, à travers la prison, va aller de l'avant. Il va de l'avant à travers la prison. Sa vie s'avance comme cela. Sa vie s'élève à travers des expériences qu'il fait en prison. À Éphèse, il aura le temps d'écrire beaucoup de lettres, qu'on appelle des lettres de captivité. La prison était devenue pour lui une occasion pour écrire des lettres. Parce qu'il est privé de sa liberté de mouvement, et donc il prend du temps pour réfléchir davantage, il commence à écrire. La prison va aussi l'aider à arriver à Rome. Il arrivera à Rome comme prisonnier. S'il n'était pas arrêté, il ne serait jamais arrivé à Rome. C'est parce qu'il était arrêté qu'il va réclamer d'être jugé par l'empereur et on va l'envoyer à Rome comme prisonnier. Voilà ce qui se passe dans la vie de Paul. Comment sa vie évolue à travers des expériences malheureuses, douloureuse qu'il fait dans des prisons. Il y en a qui nous suivent justement à partir des prisons. Il y a d'autres qui sont malades dans des hôpitaux. Il y a d'autres qui souffrent. Il faut apprendre à donner un sens à tout ce qui nous arrive. Donnez un sens à tout ce qui vous arrive. La grande crise, comme disait Benoît XVI d'heureuse mémoire, c'est la crise du sens. L'homme moderne a des difficultés pour donner un sens à ce qui lui arrive. Même la mort d'un être cher, il faut donner un sens à cela. Dieu lui-même a donné un sens à la croix de son Fils. Parce que la croix, pour les Juifs, c'est le signe de malédiction. Mais Dieu donnera un autre sens à la croix. La croix devient objet, devient le symbole de notre salut. De même aussi, si vous êtes en prison, apprenez à donner un sens à ce que vous vivez comme expérience. C'est vrai que la prison, c'est un lieu difficile à supporter. On sait dans quelles conditions les gens sont parfois incarcérés. Mais donner un sens, ça signifie que considérer la prison comme un désert, un lieu où Dieu t'a appelé pour te parler dans ton cœur. C'est souvent dans des moments difficiles, malheureux, que le Seigneur nous parle. Vous qui nous suivez dans des hôpitaux, c'est la même chose. Donnez un sens à votre maladie. C'est un kairos, un temps favorable qui permet à Dieu de vous parler, de vous révéler certaines choses que vous ne pourriez peut-être pas découvrir dans des situations qui sont normales. Mais en prison, à l'hôpital, eh bien, on découvre certaines choses. Dieu vous fait découvrir certaines réalités de la vie qui vous permettent de grandir en termes de maturité. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus prie pour l'unité. C'est un souci pour lui, un souci majeur. Il prie pour l'unité, pour que les disciples soient un. Il voit les dangers venir. D'abord, le maître sera abandonné. Ils vont fuir, chacun dans son coin. Le jour où le Christ sera arrêté. En plus, il y aura la persécution. À cause de la persécution, certains ont renié la foi. À cause de la persécution, certains ont abandonné la foi chrétienne. Et donc, c'est ça, des divisions, de toutes sortes. Voilà pourquoi le Christ prie pour l'unité. Nous devons nous approprier cette prière. Il y a des familles où il y a des problèmes. Des familles fracturées. Des communautés fracturées. Pour ne pas dire divisées. L'unité est un don. Un don qui ne peut venir que de Jésus lui-même. Et du Père et du Saint-Esprit. Il faut donc prier pour que on soit artisan de l'unité. Ça, c'est la première chose. Par rapport à l'unité, il faut prier. C'est un don. Il faut s'y mettre, bien sûr. Essayer de réconcilier les gens. Mais si le Seigneur ne touche pas le cœur de ceux qui sont en conflit, ce sera difficile. C'est un apostolat exigeant. Être artisan de l'unité. Mais ça vaut la peine. La deuxième chose, c'est que comme Jésus prie pour l'unité, et dans sa prière pour l'unité, on sent que l'heure est grave. Jésus est préoccupé parce qu'il ne veut pas la division. La division offense Jésus. La division, c'est comme si vous insultez Jésus. Il ne veut pas la division. Que chacun de nous réfléchisse donc, comme on le disait hier, êtes-vous disciples du diable? Diable, diabolos, en grec qui signifie celui qui divise. Êtes-vous disciples du diable? Vous aimez les divisions, vous entretenez des divisions, ou bien vous êtes disciple du Christ, artisan de l'unité. Que le Seigneur bénisse cette parole, qu'il bénisse chacun de vous, qu'il nous apprenne, qu'il vous apprenne à donner un sens à tout ce qui vous arrive, de bien comme de négatif. Paul, lui, il a su donner un sens à toutes ces expériences malheureuses qu'il a faites dans des prisons. Il donnait un sens à cela. Il a dit, la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Lui, il peut être en prison, mais la parole de Dieu n'est pas en prison. Il est enchaîné, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Que le Seigneur vous aide à donner un sens. Un sens qui vous fait comprendre que tout ce que nous vivons, eh bien, c'est un kairos. Le moment que vous vivez est un kairos. N'attendez pas. Ne croyez pas que la gloire de Dieu se manifeste quand tout va bien, non. La gloire de Dieu se manifeste souvent dans des moments difficiles, dans des moments extrêmement redoutables. C'est en ce moment-là, des moments graves, en ce moment-là, que Dieu se révèle à nous. Donnez un sens à tout ce qui vous arrive. En considérant les différentes situations difficiles de votre vie comme des moments favorables, où Dieu veut vous parler, où Dieu veut que vous puissiez prier davantage. Vous êtes en prison, à l'hôpital. Priez davantage. Dieu veut que vous puissiez prier davantage. Il veut que vous puissiez écouter la parole. Il a des choses à vous dire. Prenez ce temps-là de l'écouter davantage. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.